C'est Ludique, 9h30, 10h.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique, les amis. Au programme, je vais vous parler d'un jeu expert, un vrai jeu expert qui s'appelle Érudit du Tigre du Sud. C'est la suite des voyageurs du Tigre du Sud. Il y aura également Copla en fin d'émission pour On y rejoue ou pas, mais on y rejoue à quoi? Eh bien, réponse dans quelques instants. Il faut rester branché sur votre radio. Et puis, tout de suite, c'est Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes qu'on retrouve. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans le rétro, on est plutôt en avance, j'ai envie de dire.
On est un petit peu en avance, effectivement.
Tu vas nous parler d'un jeu récent, qui est sorti il y a quelques jours.
Alors moi, je me perds avec ces milliers de sorties par mois. Il me semble que c'est sorti vendredi dernier.
Voilà, ouais.
C'est Ella et l'éclat de la montagne de Jeffrey CCH. Alors il me semble que c'est l'auteur aussi qui avait fait un truc très sympa, Age of Civilization, petit jeu de gestion dans une
micro-boîte. Ouais, exact.
Ouais, qui était vraiment pas mal. Et là, avec Ella, il a fait quelque chose de très original. On est sur un jeu narratif, donc vraiment un jeu qui va vous raconter une histoire. On n'est pas sur du jeu de rôle, c'est vraiment, il y a une narration qui est déjà écrite, et vous allez pouvoir faire des choix narratifs, vraiment à l'instar d'un livre dont vous êtes le héros.
Ouais.
On va incarner un petit personnage, un petit lapin, donc c'est très très mignon et très féerique en début d'histoire.
Mais c'est pas un jeu pour enfants, on est d'accord.
Voilà, et c'est pas un jeu pour enfants. Sur la boîte, c'est indiqué à partir de 12 ans.
Ah oui.
Alors moi, je suis pas allé au bout de l'aventure, hein, parce qu'il y a trop de sorties. J'ai fait, ça va se composer de 5 scénarios qu'il faut gagner pour terminer toute l'histoire, avec plusieurs fins possibles, comme c'est souvent le cas un peu dans ce genre d'œuvre. Moi, je suis allé jusqu'au la fin du quatrième scénario. C'est assez sombre par moments, un peu dur, et j'ai entendu dire que vraiment le cinquième de ce qu'on a dit, effectivement, ça a l'air d'être, pas pour des jeunes enfants.
Ouais.
Comme souvent dans ce genre de jeu, on va avoir des choix narratifs à faire, un peu, est-ce que tu vas aller à droite, est-ce que tu vas aller à gauche, etc. Est-ce que tu vas aller explorer la forêt, est-ce que tu préfères aller cultiver des carottes, hein, c'est un peu de ce niveau-là au début de la campagne, et puis après c'est un petit peu plus prenant. C'est vraiment mécaniquement, où c'est très très original. On est sur, alors je sors des gros mots, hein, ça s'appelle un deck building. Vous avez votre petite pioche de cartes. C'est avec ça que vous allez faire des choix. À chaque tour, vous allez tirer une carte de votre paquet. Ça va vous demander de faire un choix, à droite, gauche. Et vous enchaînez des cartes comme ça. Et vous allez acquérir de nouvelles cartes qui vont changer votre pioche. Alors, j'ai envie de dire l'améliorer. Pas forcément, des fois ça va être des cartes meilleures et puis des fois ça va être des cartes pas très cool,
ouais.
Mais surtout des cartes qui vont faire progresser l'histoire. Donc c'est à travers la construction de votre paquet de cartes que l'histoire avance. Des choix qu'on a fait, on ne pourra plus les faire, donc les cartes disparaissent et sont remplacées par des nouvelles en fonction des choix narratifs qu'on a fait. Donc c'est super malin, cette manière d'amener un scénario est très originale et très prenante. Ça permet aussi d'avoir un jeu narratif qui est vraiment un jeu. On va avoir la sensation de faire des choix forts mécaniquement et pas juste narratif. Et avec aussi un feeling très gestion qui est léger mais qui est chouette. On va gagner plein de ressources qu'on peut dépenser pour faire des actions spéciales. Donc c'est assez malin et assez novateur dans le genre. Après, comme souvent dans ce genre de jeu, l'histoire va progresser en fonction de nos choix, avec des fins alternatives à la fin de chaque partie, en fonction de ce que vous avez réussi à accomplir. Un personnage qui va s'améliorer aussi entre les parties.
Ouais.
On va gagner des équipements, en fonction des équipements qu'on a, ça va avoir une incidence sur le scénario. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une réussite. D'un point de vue graphique, c'est magnifique. Bah, en tout cas, ça, c'est mon point de vue.
Ouais.
D'un point de vue scénario, je pense que ça dépendra vraiment des goûts. Ça, je préfère pas trop en parler, je préfère laisser les gens découvrir,
oui, oui.
Mais voilà, c'est un scénario avec des rebondissements, on peut s'y attendre ou pas. C'est, je trouve, une belle manière de raconter une histoire, en tout cas. Donc voilà, je vous en parle aujourd'hui, le jeu est un petit peu victime de son succès. Donc si vous voulez y jouer,
il faudra se dépêcher
ou attendre l'année prochaine.
Si vous êtes du côté de Rennes, t'as encore combien de boîtes, Jonathan?
Je crois qu'il me reste 4 boîtes.
Ah ouais. Donc va falloir
j'en avais demandé 24 pour cette semaine et j'ai dû en avoir 6.
Oui,
dernière, okay. Qu'on a bien voulu me fournir.
6 fois 4, 24, ouais, bah oui, il n'y a eu qu'une partie.
Est-ce que j'ai 2 minutes pour parler d'un jeu obscur, Mathieu?
Ah, d'un jeu obscur? Mais de quoi veux-tu parler?
Mon gros coup de cœur de ces dernières semaines, un des nouveaux jeux de Friedman Freeze qui vient d'arriver en boutique, FTW. Donc on est sur du tout petit jeu de cartes pour taper le carton dans l'esprit, on va dire, du Skijo, du Mojo, ce D'accord. genre de choses. Alors Friedman en a fait pas mal, il avait fait 5 cornichons, Fuji Flush, ce genre de choses que moi je trouve font partie des meilleurs jeux du genre. Et là avec FTW c'est vraiment une réussite, un jeu de prise de risque, de gestion de main de cartes, de défausse, qui fait super bien le travail et en même temps très très original. Vous allez essayer de vous défausser de vos cartes à vos tours en jouant des cartes plus fortes que la précédente.
D'accord.
Ultra basique, hein. Ouais. T'as joué un 24, je peux jouer un 32.
Ok.
Au lieu de ça, je peux jouer des cartes devant moi, mais je suis obligé de reprendre une carte de la défausse. Donc je me suis pas débarrassé de cartes, c'est nul. Les cartes qui sont devant moi, je pourrais les additionner à des cartes de ma main plus tard pour jouer des gros coups. Donc wow. ça, c'est assez plaisant.
D'accord.
Et l'idée très très chouette du jeu, c'est quand un joueur a plus qu'une carte, c'est la fin de la manche. Et vous allez marquer les points de votre plus grosse carte, mais perdre des points pour toutes les autres cartes que vous avez en main. Donc il y a des dilemmes durant la partie qui sont vraiment délicieux, entre est-ce que j'essaye de récupérer des grosses cartes qui me permettront de jouer, mais en même temps, si je les joue pas, ça me fait plein de points négatifs, donc vraiment cette sensation de prise de risque est très très forte. Moi, c'est vraiment une grosse claque de fin d'année.
FTW. Alors,
c'est un jeu, encore une fois.
C'est un import ? C'est de l'import ou pas ?
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et là, ce sera difficile à trouver. FTW aussi. Faudra soit maîtriser un tout petit peu la langue de Shakespeare ou l'allemand, sinon, si vous préférez. Mais voilà, si vous tombez là-dessus et que vous aimez les petits jeux de cartes rapides pour l'apéro, c'est vraiment. Une franche réussite encore une fois.
Et tu as pas d'infos par exemple si ça va arriver en France ?
Ah bah ça fait pas mal d'années que les jeux de cet éditeur ne sont plus localisés en France.
Ah d'accord.
Okay. Donc c'est la maison d'édition de Friedman Friese, Tsai F. Spiele. Donc j'y crois pas trop.
J'y crois pas trop, ok. Mais en gros tu en as, hein, c'est ça ?
Oui, moi j'en ai.
Okay.
Effectivement. En général, les nouveautés de Friedman Friese, on essaie de pas passer à côté.
Très bien. Merci beaucoup, Jonathan. On se retrouve dans 15 jours. Alors, dans 15 jours, ça va être. Donc, il y aura les trois nommés pour les Celludites d'or.
Très bien.
Mais pas que, puisque ça sera le duel des chroniqueurs dont tu seras opposé à Copla. Avec des genres de petites, des petits tests, des petites quiz de culture générale, un peu de musique, enfin voilà quoi, tout ça.
D'accord, ok, là j'ai la pression.
C'est ça, exactement. À bientôt Jonathan, salut.
Salut Mathieu, salut à tous.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Aujourd'hui, dans C'est ludique, je vous propose de traduire des parchemins étrangers en arabe et de les livrer dans la maison de la sagesse. On est en 830 après Jésus-Christ et le calife a fait appel aux esprits les plus vifs pour acquérir des manuscrits scientifiques du monde entier. Ce sont les érudits du Tigre du Sud. Érudits du Tigre du Sud est le deuxième jeu d'une trilogie après les Voyageurs du Tigre du Sud, des jeux qui sont signés Shem Phillips et Edgy McDonald, édités par Garfield Games et Pitsy Games en France. Alors dans Érudits du Tigre du Sud, il va falloir élaborer une stratégie basée sur votre carte objectif afin d'obtenir cet espace d'action le plus rapidement possible. C'est très important car ça va vous donner une action en plus. La partie prend fin à partir du moment où les 4 cartes califes sont révélées. Je vous laisserai découvrir la mise en place. Il y a un grand plateau central avec une piste plan, une piste des recherches scientifiques, les 3 maisons de sagesse et le marché des traducteurs. Chaque joueur aura également son plateau. Se déplacer sur la piste simule un voyage à travers les terres à la recherche d'anciens parchemins qui doivent être traduits dans la maison de la sagesse. Au cours du jeu, vous allez acquérir de l'expérience et monter sur les pistes scientifiques, physiques, mathématiques ou encore astronomie. Érudit du titre du Sud propose une mécanique de dés assez originale. Une chose est sûre, les dés jouent un rôle clé dans le jeu, oui. Alors il y a des lancers de dés, mais c'est pas forcément du hasard. Vous allez pouvoir l'atténuer ce hasard. Besoin de changer la couleur d'un dé, vous allez utiliser l'ouvrier de couleur que vous souhaitez modifier. Besoin d'augmenter le dé à 6, vous utilisez le même ouvrier de couleur que le dé. Et puis un 4 jaune et un 6 bleu, ça vous donne un 10 vert. Oui, car vous allez mélanger les couleurs. Un 4 violet, un 5 jaune, ça vous donnera un 9 violet, car la couleur secondaire prend le dessus et le dé blanc prend la couleur de l'autre dé. Un 2 rouge et un 3 blanc, ça vous donne un 5 rouge. Il y a pas mal de possibilités, je vous laisserai découvrir. Ces dés que vous allez tirer dans votre sac et lancer, vous allez en avoir besoin pour faire vos actions. Alors à votre tour, vous pourrez soit travailler, soit vous reposer. Bon alors si vous travaillez, vous posez une carte action sur l'un des emplacements vides de votre plateau. Ensuite vous poserez un ou deux dés et des ouvriers si vous voulez en plus pour modifier les couleurs des dés comme je viens de vous expliquer. Parmi les actions, vous pouvez recruter pour dépêcher ou employer un traducteur. Ici, hein, seule la valeur du dé comptera, pas la couleur. Hein, y aura forcément quelque chose à payer. Autre action, c'est de voyager. Vous allez déplacer votre pion sur le plan du plateau central et faire l'action où vous allez vous arrêter. Vous pouvez avoir des bonus hein, grâce à la couleur. C'est sur ce plan d'ailleurs que vous pourrez récupérer des cartes parchemin que vous pourrez ensuite livrer à la maison de la sagesse. Quand vous livrez une carte, vous payez 4 pièces. Vous gagnez de l'influence et avancez sur la piste de recherche scientifique du type de la carte posée. Si c'est une carte verte, eh bien vous avancez sur la piste verte. Justement, une des autres actions du jeu, bah, c'est de rechercher. Vous déplacez votre marqueur sur l'une des 6 pistes, hein, selon 4 options, selon la valeur et la couleur. Alors si par exemple je fais un 4 rouge, je peux avancer d'une case sur la piste rouge, en échange de donner une pièce d'or. Je gagnerai 2 pièces. Si je fais un 8, et ben là, pas besoin de donner de l'or pour avancer. Autre action, c'est traduire. Là, on va devoir payer un ou plusieurs traducteurs pour traduire une carte parchemin de sa langue d'origine en arabe. Puis après avoir traduit plusieurs parchemins, ben les traducteurs vont partir à la retraite. Et c'est le joueur hein, qui en est le propriétaire qui le récupère et le place hein, sous son plateau qui lui accordera aussi un bonus hein, si le joueur utilise cet emplacement action. Si vous ne faites pas l'action travailler, vous pouvez vous reposer. On va révéler une autre carte parchemin. Si c'est une carte calife, plusieurs choses vont se produire, que je vous laisserai découvrir. Vous pourrez notamment déplacer des influences pour les joueurs qui contrôlent une guilde. Mais sachez qu'à la quatrième carte calife, c'est la fin de la partie et on passera au scoring. Beaucoup de choses vont rentrer en compte. Les dés, les points des traducteurs, les points des guildes, la position sur les pistes recherche et les cartes parchemin. Il existe même une appli pour calculer les scores. J'ai oublié de vous dire... Qu'en vous reposant, eh bien vous gagnez les récompenses des pistes scientifiques. Vous remettez les dés utilisés dans le sac et vous reprenez toutes vos cartes actions. Il y a une énorme profondeur dans le jeu et une grande rejouabilité. Alors il faut avoir l'œil partout, il y a de l'interaction avec l'influence. Il est plus expert que les voyageurs du Tigre. À mon avis, le jeu peut paraître long, environ 2 heures à 2. Mais vous pouvez aussi décider de faire des parties courtes. Voilà, ça s'appelle Érudit du Tigre du Sud, un des jeux experts de cette fin d'année.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le jeudi, on retrouve Copla pour On y rejoue ou On n'y rejoue pas. Salut Copla.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors, l'année dernière, je présentais quel jeu ?
Alors, l'année dernière, ma semaine 49, tu nous parlais de Piège Obscur, Maui, Galiléo, Puerto Rico 1897 et Busanga. Et alors, dans cette liste, moi, j'ai choisi de vous parler de Piège Obscur. C'est un jeu de Chris Chan, Chris McMahon et Roswell Saunders. Et il est illustré, justement, par l'un de ses auteurs, Chris Chan, et édité par Yellow. Alors, Piège Obscur, à la base, c'est issu d'un Kickstarter. C'est un jeu coopératif de placement de tuiles, d'exploration et de survie, dans lequel vous jouez des âmes perdues, piégées dans un sombre labyrinthe en perpétuel mouvement. Alors l'histoire raconte que vous vous réveillez dans le noir, vous ne savez pas trop, pas vraiment comment vous êtes arrivé là, ni même où vous vous trouvez exactement, mais une chose est sûre, vous devez vous échapper de cet endroit.
Ok, et comment on fait
alors? Pour on ne sait quelle raison, vous savez qu'il y a de mauvaises choses qui se passent par ici. Encore une fois, on ne sait pas trop ce que c'est ni à quoi ça ressemble. Mais là aussi, une chose est sûre, ça ne vous veut clairement pas du bien. Alors, heureusement pour vous, même si vous êtes complètement à poil et sous terre, bah déjà, vous êtes encore en vie.
Oui, c'est déjà bien.
Mais surtout, vous avez avec vous une petite bougie, une bougidette qui permettra d'éclairer les différents chemins, ou plutôt couloirs, qui s'offrent à vous, qui sont donc représentés sur des tuiles. Donc votre objectif, il est clair, vous devez trouver la sortie. Mais pas tout seul, parce qu'apparemment vous êtes plusieurs là-dessous. Et il vous faudra coopérer avec les autres prisonniers et réfléchir ensemble à la stratégie qui vous permettra de garder vos bougies allumées assez longtemps pour pouvoir tous fuir cet enfer.
On est donc sur un jeu coopératif.
Absolument. Alors, innocent ou pas, là n'est pas la question, mais on va partir du principe que oui, même si après tout, l'histoire ne dit pas comment vous êtes arrivé là, finalement, c'est vraiment vous les gentils. Mais bref, donc ce principe, le principe d'éclairer votre chemin à la lueur d'une bougie, il est plutôt sympathique, puisque de nouveaux couloirs apparaissent au rythme de vos déplacements, tandis que les chemins que vous venez de quitter, eux, ils disparaissent à jamais dans les ténèbres. Donc vous retournez au fur et à mesure les tuiles de votre avancée dans ce fameux labyrinthe. Et ça, thématiquement, ça marche à fond.
Ouais.
Alors malheureusement pour lui, Piège Obscur, il a de nombreux points communs avec un autre jeu auquel il est donc très souvent comparé.
Subterra.
Absolument, mais Subterra. Oui. Subterra qui est un mastodonte du jeu de survie coopératif qui se passe dans des souterrains représentés par des tuiles, avec de vilaines bébêtes prêtes à vous bouffer, avec une direction artistique impressionnante, une excellente rejouabilité, des extensions qui apportent chacune leurs défis et améliorations. Bref, Subterra qui est sorti en 2017 fait partie de cette catégorie de jeux de plus en plus restreinte qui dure dans le temps et qu'on trouve dans beaucoup d'étagères.
Eh oui, il n'y en a plus beaucoup.
D'ailleurs, si vous n'avez pas encore la vôtre, partez chez votre petite boutique spécialisée, vous en procurez un, voire deux, puisqu'il a même eu droit à un deuxième volet cette année.
Oui, avec un volcan cette fois-ci.
Exactement, un petit peu plus côté Indiana Jones. Alors, quels seraient du coup les plus de Piège Obscur ?
Bah oui.
Alors, on va citer la tension qu'on éprouve tout au long de la partie. Elle est clairement palpable. Elle est évidemment induite par la thématique. Elle est accompagnée d'une direction artistique soignée, avec un rendu un peu crayonné et tout en noir et blanc, qui lui confère un côté horrifique, sans pour autant être ni gore, ni même effrayant. On a aussi le matériel qui est de bonne qualité, les tuiles, les pions et surtout de sublimes petites clés métalliques qu'il vous faudra d'ailleurs récupérer pour pouvoir sortir. On a des modules qui vous permettent d'adapter le jeu, de le complexifier en ajoutant de nouveaux types de monstres. La cohérence entre cette fameuse thématique et cette mécanique, le tout dans une ambiance parfaitement angoissante. Hein. On se retrouve donc très vite plongé dans un sentiment d'oppression. Et pourtant, il faut veiller à garder la tête froide. Donc, frisson garanti.
Même la boîte est toute noire. Hein, donc
absolument. Oui, justement. Alors, pour terminer, à la question, un an après, est-ce qu'on y rejoue ou pas ? Non, parce qu'il est malheureusement trop léger. L'expérience de jeu n'est pas assez nouvelle ni exceptionnelle pour des joueurs qui seraient en premier attirés par son look justement de film de suspense, notamment grâce à sa jolie boîte. Et pourtant, un petit peu trop dark pour être joué aussi avec les plus jeunes, sauf peut-être pour Halloween.
Mais oui.
Et puis, de toute façon, Subterra, quoi. C'est difficile de rivaliser avec un jeu aussi excellent que Subterra.
Effectivement.
Pour moi, qui, je l'ai déjà avoué dans une précédente chronique, ai tendance à être attirée un petit peu par le côté obscur de la force, la réponse, elle serait oui. Et si, quand je vous parle de Lovecraft, Tim Burton, Dark Souls ou encore Little Nightmare, vos oreilles frémissent, je vous invite à vous le procurer, à lancer une bande-son originale qui est d'ailleurs fournie par l'éditeur, à allumer des bougies, à éteindre les lumières, et vous verrez qu'en rentrant dans cette ambiance de jeu, Piège Obscur en vaut quand même la chandelle.
Ah, c'est joli tout ça.
Voilà.
Donc Piège Obscur.
Oui, donc c'est oui mais non, mais non mais
c'est,
oui.
C'est ça, c'est oui mais non, mais oui
c'est
mais non.
C'est non pour la plupart, mais ce sera oui dans mon cœur.
Très bien, merci beaucoup Copla.
Voilà, alors, merci à toi.
On se retrouve la semaine prochaine, mais avec une autre casquette je crois.
Oui, on va laisser un petit peu de suspense, mais en effet.
C'est ça. À la semaine prochaine, salut.
À la semaine prochaine, bonne journée.